Il est 18h02. On est plusieurs à se demander encore comment se fait-il que malgré plus de 1000 morts par jour aux États-Unis, oui, 1000 morts par jour, après ce qu'on a vu dans nos CHSLD ces derniers mois, quand on lit ce que des jeunes vivent, encore ce matin, une autre histoire très triste dans les journaux, des gens malades pendant des mois qui peinent à refaire leur force, comment se fait-il que des gens doutent encore, pour ne pas dire doutent de plus en plus de la réalité de la maladie, dans certains cas, ni même l'existence de la COVID? On va en parler avec Camille Lopez, qui est journaliste collaboratrice à l'actualité. Camille a aussi été sur le projet de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, sur la désinformation entourant la COVID. Camille Lopez, bonsoir.
Bonsoir, Marie-Claude.
Alors, Camille, on dirait vraiment deux mondes qui n'arrivent plus à se parler.
C'est pas mal ça. Écoutez, d'un côté, on a une partie de la population qui fait la sourde oreille, qui même... dans certaines franges, est très hostile par rapport à cette situation-là. Et de l'autre, ben, on a des autorités qui doivent continuer à émettre des consignes, qui doivent continuer à écouter les experts sans essayer de trop donner d'importance à ce discours-là. Donc c'est très compliqué. Et c'est très hostile comme monde, hein, parce que, bon, d'un côté, on a des gens qui se sentent, comment dire, avec les nouvelles mesures, la porte-match, etc., qui se sentent attaqués, brimés dans leur liberté individuelle. Et donc, ça les pousse à dire des choses violentes, à nier l'existence de cette maladie-là et à diriger cette colère-là contre les autres. Et peut-être même à commettre des actes violents. Et pour vous donner une bonne idée, il y a une nouvelle étude récemment publiée qui a indiqué qu'environ la moitié des Canadiens étaient touchés par ce phénomène-là des fausses nouvelles sur la COVID. Donc, c'est pas surprenant que vous voyez des fausses nouvelles passer. Ça touche pas mal tout le monde.
OK. Puis ça touche les gens de toute forme d'éducation, là.
Absolument. Ça touche... souvent, on a un petit peu un préjugé par rapport aux conspirations, aux fausses nouvelles, etc. Ce ne sont pas les personnes... non éduqués, hein, qui y croient, bien sûr, oui, mais ça touche vraiment tout le monde. Ça touche votre voisin qui est un professeur, ça touche votre tante qui pourtant a un doctorat, ça touche vraiment tout le monde parce que ça vient nous chercher dans nos libertés individuelles et dans les normes sociales auxquelles on adhère ou on n'adhère pas.
Bon.
Donc, c'est vraiment plus un phénomène marginal.
En effet. Et Camille, une chose que je trouve absolument terrifiante, c'est que des jeunes qui parlent publiquement des souffrances qu'ils ont endurées avec la COVID reçoivent des menaces.
Écoutez, c'est pas nouveau de se tourner vers les plus vulnérables quand on veut faire passer un point, on va se le dire. Les gens qui ne croient pas à la COVID ou qui croient à une théorie X sur la provenance de la COVID doivent catalyser leur colère à quelque part. Ils peuvent pas nécessairement aller cogner à la porte du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'ils vont aller menacer les gens qui trouvent. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui, courageusement, vont aller témoigner sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle les jeunes reçoivent des menaces, c'est parce qu'une des informations fausses les plus communes, c'est que la COVID ne touche pas les jeunes. Alors, quand bien ça, quand des jeunes vont venir témoigner que eux, ça les a lourdement touchés, que c'est même handicapant pour eux, qu'ils s'en remettent pas, ou qu'ils viennent tout juste de l'avoir, qu'ils témoignent de l'hôpital, bien sûr, il va y avoir des mots de soutien, il va y avoir des mots d'encouragement, mais vous allez voir, et c'est assez frappant, beaucoup de gens qui attaquent ces personnes-là, qui leur disent « Pourquoi est-ce que vous mentez? Vous ne faites qu'encourager ce mensonge-là. » Et cette violence-là, j'ai vraiment l'impression, et c'est peut-être un peu personnel, parce qu'en tant que journaliste qui couvre la COVID-19, j'en reçois des menaces aussi, mais j'ai l'impression qu'elle se manifeste de plus en plus. Hein. Ça a touché, on l'a vu, le docteur Arruda,
oui,
qui a reçu des menaces,
oui,
ça touche des patients, comme vous l'avez dit. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui croient qu'on nous ment, qu'on fait partie d'un grand mensonge créé pour nous nuire, pour nous contrôler. Alors, c'est sûr que ça vient provoquer la colère. Et c'est sûr que ça vient faire peur aux gens parce que ce genre de colère-là, c'est de la colère qui peut pousser à des actions qui sont très violentes.
Oui, oui, c'est une colère viscérale chez les gens qui y croient pas. Puis moi, il y a des fois où je me dis, mais c'est quand même quelque chose. Je vois pas comment les pays, des pays d'Europe, des pays ici, auraient fermé leur économie pour une fausseté. Là, c'est quand même assez gros comme... On n'a jamais vécu ça, personne. Rarement tant d'informations, tant de n'importe quoi auraient circulé sur les réseaux sociaux, Camille. J'ai reçu récemment des images d'une manif de gens qui n'étaient pas masqués, des milliers de personnes en Allemagne qui manifestaient leur aversion au masque, alors que c'était des images d'une autre manifestation. C'était pas c'était pas une manifestation anti-masque, c'était des images d'une manifestation ancienne.
Exactement. Utiliser des images hors contexte constamment pour utiliser des images hors contexte, c'est une technique qui est constamment utilisée hein, pour donner plus d'importance à un événement. Je pense que vous parlez d'une manifestation anti-masque à Berlin qui pourtant a été très populaire, qui a très bien fonctionné. Il y avait beaucoup de personnes à cette manifestation-là, mais l'image en question, là, c'était une image, je crois, d'un rassemblement dans les derniers jours à Zurich là, où il y avait eu plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois. Donc, on est loin du nombre réel de la manifestation, mais écoutez, c'est sûr que quand on veut donner plus d'ampleur à un phénomène, à un mouvement, ben on va faire croire aux gens qu'il y a 1 million, des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à sortir dans les rues pour supporter ce mouvement-là. Là.
Oui, en effet. On a parlé plutôt à une Québécoise qui est installée en Allemagne temporairement là, pour 2 ans et qui en ce moment voyage un petit peu partout en Europe et qui disait que elle, toute idée de registre, etc., là, qu'on donne son numéro de téléphone pour aller dans un bar, ça ne l'embêtait pas du tout parce qu'elle apprécierait de se faire appeler s'il se passait quelque chose et que des gens autour d'elle dans un bar ou ailleurs seraient positifs à la COVID. Pourquoi ici les gens tant l'idée de donner leur nom, numéro de téléphone quand ils fréquentent un bar? Parce qu'en Ontario, là, ça va être obligatoire à compter de vendredi. On appelle ça un registre, mais dans le fin fond du fin fond, on donne notre numéro de téléphone. On le fait déjà quand on réserve au restaurant. Pourquoi cette panique?
Écoutez, une grosse partie de mon travail s'est passée sur les réseaux sociaux pour les arguments qui sont utilisés pour porter ce genre de croyances-là. J'associe vraiment ça aux mêmes arguments qui sont utilisés pour contre le port du masque. C'est une perception, encore une fois, que nos libertés individuelles sont brimées. Ici, on mêle à ça, pour un contexte un peu plus québécois, si on mêle à ça le fait que dernièrement, là, il y a des fuites de données personnelles là, dans plein de compagnies, bon, ça l'aide pas.
C'est vrai.
Mais bon, on vous demande pas votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de carte de crédit. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que en ce moment au Québec, ces registres-là, c'est sur une base volontaire. Mais si vous ou une personne avec qui vous avez été en contact contracte la COVID, il va y avoir une enquête de santé publique de toute manière. Ces questions-là, on va vous les poser pour savoir avec qui et où vous avez été pendant que vous étiez contagieux. Donc, ces questions-là, on va vous les poser. C'est sûr qu'il y a une différence entre donner ces informations-là à une instance gouvernementale et à un restaurant. Ça ne change pas que vous allez devoir y répondre et que ben, quand c'est le gouvernement qui va vous les poser, ben on va vous demander votre coopération pour sauver et détecter le plus de cas possible.
En effet. Puis je le répète, là, quand on appelle pour réserver un restaurant, maintenant, non seulement ils vous demandent votre numéro de téléphone, mais ils vous appellent le jour même parce qu'il y en a qui ne prennent pas la peine d'appeler pour annuler et les restaurants en souffrent beaucoup. Alors donc, moi, j'avoue que c'est ça. J'ai des réticences sur certaines choses, mais j'avoue que ça, non. Donner mon numéro de téléphone à un restaurant ou à un bar, ça ne me gêne pas pantoute.
Je pense qu'en général, on aime juste pas se faire dire quoi faire et que là, c'est amplifié. Puissance 1000.
Oui, non, effectivement. Effectivement. C'est toujours pris comme, effectivement, on brime la liberté des gens. Des faux conseils sur la maladie, faux médicaments, encore là, des courriels qui circulent, pas des courriels, mais des sur les réseaux sociaux, des messages qui circulent de scientifiques, des vrais de vrais, apparemment, qui disent que c'est pas dangereux. Puis voyons donc, il y a des remèdes à chaque étape. Si vous l'avez légèrement, on a des remèdes. Si vous l'avez très fort, on a des remèdes. Vous serez pas sur un respirateur, c'est pas grave. Comment on fait pour convaincre les gens que ce sont des scientifiques qui disent une chose pareille?
Ben écoutez, il y a toujours des termes qui sont des termes qui sonnent scientifiques, qui sont très impressionnants, qui ont plusieurs lettres, des termes qu'on n'arrive pas à prononcer, qui sont très impressionnants. Donc, on a l'impression que ça vient d'une personne qui sait de quoi elle parle. Les faux scientifiques sont très bons pour jouer le rôle de vrais scientifiques. Je vous dirais que en ce moment, pour essayer de détecter si c'est une vraie personne ou pas qui vous parle, faites attention. Les sujets chauds en ce moment, c'est la vaccination et le port du masque. Il y a énormément de fausses informations qui circulent par rapport à ces deux arguments-là. Alors, si vous voyez que quelqu'un essaie de profiter monétairement ou pour sa carrière ou pour sa réputation de la tragédie qu'on vit en ce moment, de la pandémie qu'on vit en ce moment, si vous me permettez l'expression, c'est un red flag. Alors, faites attention à ça et surveillez ça parce que malheureusement, il y en a beaucoup et c'est pas rare.
Ouais. Et quand on parle du vaccin, évidemment, les théories du complot ne datent pas d'hier. Ça fait des années, des années que je travaille dans le domaine en journalisme et dans des émissions de radio, de télévision et même des émissions santé. Puis les doutes, même il y a des études qui avaient été faites en Angleterre pour prouver que le vaccin était dangereux pour les enfants, les vaccins, etc. Puis plus tard, on a su que c'était des fausses données, que l'étude n'était absolument pas scientifique. Alors c'est
donc,
sûr
ça trouve écho. La pandémie en ce moment, toutes les conspirations entourant la pandémie trouvent définitivement écho dans le mouvement anti-vaccination qui a été remis un peu sur la place publique et qui profite beaucoup de ce qu'on vit en ce moment pour faire valoir ses faux arguments et pour semer la peur aussi, désinformation.
Oui, Camille, je ne sais pas si vous avez vu, il y a peut-être, trois semaines à peu près, le docteur Alain Vadeboncœur avait fait un tweet où est-ce qu'il s'était fait filmer avec un masque, après ça, puis il prenait sa, comment on appelle ça, dont le taux d'oxygène dans le sang, là, constamment. Et donc, avec un masque sur le visage. Après ça, il en mettait un deuxième, puis son oxygénation était très bonne encore. Après ça, il en mettait un troisième.
Je pense qu'il s'est mis une
jaquette
aussi sur la tête.
Une jaquette sur la tête, puis tout ce temps-là, l'oxygénation continuait d'être parfaite. Donc, c'était sa façon de prouver, un peu par l'absurde, que ceux qui disent le masque est dangereux parce qu'il m'empêche de respirer et je vais perdre mon oxygène, c'était pour dire que c'était faux. On s'entend, Camille, c'est pas toujours agréable de porter le masque. C'est pas le fun. Des fois, il fait chaud. Ceux qui portent des lunettes, ça embue les lunettes. Mais bon, c'est important de dire que c'est pas dangereux de porter le masque.
Et non, et que, bon, on veut pas atténuer non plus l'inconfort que ça peut provoquer, le masque, surtout avec la chaleur, comme vous l'avez dit, mais bon, c'est des trucs qui se règlent en trouvant un masque qui est bien ajusté, qui est fait dans le bon tissu, etc. Bien sûr, il y a toute la question des personnes asthmatiques, des personnes malentendantes, des personnes sur le spectre de l'autisme, etc., mais ça, ce que j'ai pu voir, ça va être du cas par cas pour des dérogations. Faites aussi attention, je crois que d'autres médias en ont parlé, mais faites aussi attention à ces fameuses fausses cartes qui vous donneraient la permission de ne pas porter de masque. Ça sert absolument à rien. Vous allez juste jeter votre argent en poubelle. Ce n'est pas reconnu. Ouais. Alors, quand on dit qu'il y a des gens qui essaient d'en profiter, c'est un exemple numéro un.
Il reste à peine 20 secondes en terminant, Camille. Les erreurs du gouvernement ont peut-être un petit peu nuit, ou enfin, la confusion sur le masque en quelques secondes.
Oui, ben écoutez, l'OMS, le gouvernement du Québec, les scientifiques ont changé d'avis par rapport au masque. C'est un changement de cap qui a définitivement mis de l'huile sur le feu. Pourtant, le gouvernement a toujours expliqué que c'était une décision qui se voulait graduelle, mais il y a des scientifiques qui demandaient que le masque soit obligatoire depuis assez longtemps. Alors, je vous dirais, c'est une question de suivre la science, suivre les nouvelles études et de s'adapter par rapport à ça. Mais ça a jeté l'huile sur le feu.
Et ce virus change constamment. Camille Lopez, journaliste collaboratrice à l'actualité, merci infiniment. On va s'arrêter pour une pause.
Merci beaucoup.